Salut, c'est Fatoumata au micro.
Salut, c'est Jules au micro.
Je m'appelle Amataba.
Salut, c'est Sarah au micro.
Salut, c'est Yacoub à la micro.
Salut, c'est Ankoutsa au micro.
C'est Béthé au micro.
Salut, c'est Salim au micro.
Salut, c'est Verika au micro.
Je viens de Soudan.
Je viens de Roumanie.
Je viens du 18e.
Je viens du Maroc.
Je viens de Paris.
Bienvenue à la Goutte d'Or.
Bienvenue à la Goutte d'Or.
Bismillah à la Goutte d'Or. C'est l'émission au cœur du quartier Goutte d'Or.
Salam alaikum, badra, bismillah, bismillah, wa naki Goutte d'Or.
Welcome to Goutte d'Or. Faddalo à la Goutte d'Or.
Sur Radio Campus Paris.
93.9 MHz FM.
93.9 FM.
Une émission réalisée par les jeunes de l'association Accueil Goutte d'Or.
Bienvenue à la Goutte d'Or.
Bienvenue à la Goutte d'Or.
Voilà, super.
Bonjour à tous. Vous êtes dans Bienvenue à l'Accueil Goutte d'Or, Radio Campus Paris. C'est l'émission de l'association L'Accueil Goutte d'Or. On est très content d'être avec vous pour vous faire découvrir notre quartier. On va se balader dans la rue, partie de la rencontre des habitants. D'abord, on va visiter l'écomusée pour découvrir la Scred Connection, un groupe de rap installé ici depuis 20 ans. Ensuite, en route pour l'Institut de culture de l'Islam. Ça sera pour une visite de l'exposition sur les hammams à Tunisie, la capitale de la Tunisie. On entendra aussi Christine, à la directrice de l'Accueil Goutte d'Or. Elle va nous faire découvrir l'histoire de notre quartier. Et pour finir, deux rencontres. Ronali nous raconte sa passion pour la danse Bharatnatyam. Et Viorica vous dire comment préparer la soupe de la poulet de son pays d'origine, la moule d'Avi. Plein de choses à écouter, alors restez avec nous. C'est l'émission Bienvenue à la Goutte d'Or.
Bienvenue à la Goutte d'Or.
Bienvenue à la Goutte d'Or.
Et pour commencer, je passe le micro à Sarah. Tu nous présentes un micro-trottoir réalisé avec les habitants.
Alors oui, on va écouter un micro-trottoir et on est allé rencontrer les habitants de l'accueil de quartier Goutte d'Or avec Fatoumata, Jules, Ramata, Ronali, Verika, Berete, Ankuta et toi aussi Marito. On leur a demandé ce qu'ils connaissent de la Goutte d'Or et ce qu'ils pensent de la vie d'ici. Je vous laisse écouter.
Bonjour, je m'appelle Rezeki Younes et je suis habitant de la Goutte d'Or.
Alors bonjour, pourquoi vivez-vous à Goutte d'Or? Qu'est-ce qui vous plaît là-bas?
Bonjour Jules, je vis à la Goutte d'Or parce que j'y travaille et parce que c'est là où j'ai débarqué quand je suis arrivé du Maroc.
Donc vous vivez d'ici depuis combien de temps?
Depuis 1992.
Pourquoi vous vivez à Goutte d'Or?
Alors je vis là parce que, comme je te l'ai dit, c'est là où j'ai atterri en arrivant du Maroc. Et je suis resté attaché à ce quartier, donc maintenant j'y travaille.
Et vous y faites quoi comme travail?
Je suis chargé de médiation et de relations avec les publics à l'Institut des cultures d'Islam.
Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est un établissement culturel de la ville de Paris. Alors, on est sur deux lieux, au 19 rue Léon et au 56 rue Stephenson.
Qu'est-ce que vous y faites tous les jours? À quoi ça sert?
On a trois expositions par an, des rencontres littéraires, des projections, des débats, des concerts, du théâtre, du spectacle vivant en général.
Quels sont les lieux importants du quartier?
Alors les lieux importants pour moi, c'est le Square Léon. C'est un peu l'âme de la Goutte d'Or. Après, il y a la rue de la Goutte d'Or, malgré qu'elle a été détruite et qu'elle ressemble plus tellement à celle que j'ai connue.
C'est quoi comme lieu ?
Le lavoir moderne parisien.
Ce qu'il en reste. Hein.
Ce qu'il en reste.
Est-ce qu'on a d'autres questions ?
J'ai envie de poser une question. Qu'est-ce que vous pensez ? Quels sont les points positifs et les points négatifs dans ce quartier ?
Les points positifs, c'est que c'est un quartier où on connaît beaucoup de gens, où les gens se connaissent et se parlent. C'est vraiment le point positif.
Donc merci de nous avoir accordé votre temps et bah au revoir un jour peut-être.
Merci à vous.
Vous pouvez nous parler par rapport le quartier.
Alors je peux vous dire que c'est un quartier très riche, multiculturel et comme je suis boulangère et je fais des bonnes soupes, je vois du monde de toutes les nationalités et de toutes les couleurs. Noir, arabe, français, tout mélangé dans la bonne humeur.
Et les lieux, ce que vous aimez dans ce, enfin, le quartier ?
Alors, comme je travaille du matin au soir, je n'ai pas le temps. Donc, je connais la boulangerie et mes clients qui fréquentent la boulangerie me racontent tout ça.
Et vous aimez votre travail ?
J'adore. C'est mon mari, le boulanger.
Merci beaucoup.
Merci à vous, mesdames. Merci. À la prochaine. Merci. J'espère que vous serez mes futures clientes.
Merci. Excusez-moi, vous avez 2 minutes libres.
C'est d'accord.
Est-ce que vous habitez dans les quartiers Goutte d'Or ?
Alors, j'ai habité à la Goutte d'Or, mais je n'habite plus à la Goutte d'Or. J'ai habité la Goutte d'Or du temps où j'y louais un appartement, mais comme il y a eu une rénovation de quartier, il a fallu que je parte. Donc, j'habite à côté, mais pas très loin. Voilà. Je suis parti à cause de la réhabilitation du quartier, le fait qu'il y avait de la spéculation immobilière et que la propriétaire m'a dit un jour, terminé, c'est fini. Donc, je suis parti. Quoi.
Que pensez-vous de cette quartier ?
Qu'est-ce que je pense de ce quartier ? Ce quartier est ce que son nom indique. Bah une goutte d'or, la goutte d'or, petit Eldorado quoi. Voilà, je peux pas dire autre chose. C'est quand on a mis les pieds dedans, difficile d'en partir quoi. Qu'est-ce qui m'a accroché ? Le fait de la diversité des cultures, des religions, la diversité des individus, la possibilité de vivre libre dans un espace où finalement à l'époque personne s'occupait de nous, mais vraiment pas du tout, qui était politiquement abandonné et dedans, on s'auto-organisait et ça se passait très très bien.
Qu'est-ce que vous pensez ? Quels sont les points positifs et les points négatifs dans les 7 quartiers ?
Alors, le point négatif, c'est que c'est un quartier qui a été complètement abandonné du point de vue de l'entretien des constructions, qui fait que, quand je l'ai connu dans les années 80, il était en état de dégradation très très grave et très prononcé. Il a fallu qu'une partie du bâti soit détruite, ce qui est dommage parce que si ça avait été gardé, entretenu comme à Montmartre par exemple, on aurait le quartier d'origine. Donc beaucoup de gens ont été obligés de partir, donc quelque part c'est aussi l'âme du quartier qui s'est un peu volatilisée vers l'extérieur. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui ont été perdues. Mais le point positif, c'est que tout n'a pas été perdu et qu'il reste quand même tout cet esprit, cette capacité à vivre ensemble dans les différences, dans les difficultés, enfin cette espèce à ce niveau-là, quelque chose qui est exemplaire comme quartier de France, quoi. Ouais, je pense que c'est un quartier qui s'en sort quand même quelque part très très bien quoi. Les gens qui sont ici, qui sont là depuis longtemps, qui bossent depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils tiennent le quartier quoi, et on le lâche pas quoi, on y tient. C'est une pierre précieuse, c'est de l'or quoi.
Merci beaucoup, vous êtes très gentil et bonne journée.
Ouais, et vous aussi. À bientôt.
À bientôt.
Je m'appelle Rachid Harar. J'ai 55 ans, je peux pas le dire à tout le monde, hein. Heureusement qu'on verra pas ma photo à la radio. Et je suis né dans ce quartier. Quartier, je l'aime tellement que j'en suis un otage volontaire.
Qu'est-ce que tu fais dans le quartier ?
J'attends que les gens viennent me poser des questions comme vous.
D'accord.
Je suis président d'une association qui s'occupe des personnes âgées, qui distribue des repas gratuits pour les. Qui embauche des gens, qui fait travailler des gens, qui aide. Je suis là pour aider les gens.
Vous pouvez dire c'est deux choses de positives et deux choses de négatives dans le quartier.
Alors, ce qu'il y a de positif dans le quartier, c'est qu'il est en pleine évolution grâce à des gens comme vous qui cherchent à apprendre et tout. Ce qu'il y a de négatif, c'est qu'il manque beaucoup d'espace pour que les gens puissent travailler. Il manque du boulot pour les habitants du quartier. Et c'est ça qui est dommage.
Merci beaucoup. On vous remercie beaucoup, monsieur.
Merci, au revoir.
Au revoir et bonne continuation.
Merci.
Voilà, un grand merci aux habitants qui ont répondu à nos questions. Merci à toute l'équipe pour ce reportage. Je vous confie à ma chère Ramata qui va nous présenter Christine, la directrice de la Caille Goutte d'Or.
Merci Sarah, bonjour à tous. Je vous propose une interview que nous avons faite avec la directrice de la Caille Goutte d'Or. Elle nous présente l'histoire du quartier. Installée à Paris dans le 18e arrondissement.
Bonjour.
Bonjour, Ramata.
Comment vous appelez ?
Je m'appelle Christine Ledésert. Je suis la directrice d'accueil Goutte d'Or.
En fait, j'aimerais savoir pourquoi la quartier s'appelle Goutte d'Or.
Alors, on raconte que le quartier s'appelle Goutte d'Or parce qu'avant, là où il y a le square Léon, c'était comme une petite colline au pied de Montmartre. Et les paysans cultivaient de la vigne et produisaient un vin qui s'appelait la goutte d'or parce qu'il était doré. Je ne suis pas sûre que l'histoire soit 100% vraie, mais elle est belle et on pourrait inventer aussi d'autres histoires.
Quand est-ce que la goutte d'or est rentrée dans Paris ?
En 1870. Avant, Paris, en fait, il a grandi petit à petit comme un grand cercle qui s'élargit. Et c'était ce qu'on appelait les grands boulevards, là où il y a maintenant le métro Barbès, c'était la limite. Le 18e ne faisait pas partie de Paris, alors que le 10e faisait partie de Paris. Et c'est en 1870 que la Goutte d'Or a fait partie de Paris. Et avant, pour rentrer certaines marchandises dans Paris, il fallait payer des taxes, notamment sur le vin, sur les alcools. Alors du coup, il y avait des trafics parce que les gens préféraient venir acheter de l'alcool en dehors de Paris. Ils ne payaient pas de taxes. Puis, ils le rentraient par contrebande dans Paris.
Depuis quand la Goutte d'Or accueille les gens ?
On peut dire que la Goutte d'Or accueille les gens depuis très longtemps. En fait, c'est depuis 1830-1840, il y a eu tout un grand changement dans la société française. C'est toute l'industrialisation. Une personne qui s'appelle Haussmann, qui a fait une grande rénovation pour créer des grandes rues, des grands axes, avenue de l'Opéra, les grands boulevards, des grands immeubles. Donc tout ça, ça a transformé Paris. Et cette transformation de Paris a fait qu'il a fallu qu'il y ait des gens qui viennent pour travailler. Alors au début, ils venaient des provinces françaises, mais dans les provinces françaises, à l'époque, on ne parlait pas français. Les gens étaient des cultivateurs, des paysans. Ils n'étaient pas forcément allés à l'école et ils arrivaient à Paris et découvraient une grande ville où les gens savaient lire et écrire et découvraient le travail qu'on fait en ville. Ils avaient abandonné la campagne. Donc ça, c'était des gens qui venaient d'abord de province, c'était des Français. Puis après ça, il y a eu des immigrés qui sont venus d'Italie, de Pologne, donc tout le temps, tout le temps. Finalement, la Goutte d'Or a tout le temps été un lieu d'accueil. Après, il y a eu toute une population venant du Maghreb, d'Algérie et des autres pays du Maghreb, puis des gens qui venaient d'Afrique, Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, quand on regarde la Goutte d'Or, il y a des gens de partout.
Depuis quand la Goutte d'Or ne fait plus partie de la chapelle ?
Alors là, je ne sais pas exactement. Je sais que chaque arrondissement de Paris a été divisé en 4 quartiers. C'est pour ça qu'on les appelle des quartiers. Et si vous regardez une carte de Paris, vous voyez, ça fait comme un escargot, des tout petits arrondissements au centre, puis un petit peu plus grand, puis encore plus grand. Et en fait, chaque quartier est divisé en 4. Donc le 18e arrondissement, il y a 4 parties. Il y a les grandes carrières, il y a Montmartre, il y a la Goutte d'Or, il y a la Chapelle. Mais je ne sais pas très bien, je ne sais pas à quelle date ça a été déterminé.
Quel a été le grand changement du quartier ?
Alors, les grands changements du quartier, ben déjà au tout début, que le quartier qui était de la campagne, c'est devenu de la ville. Puis après ça, ça a été... Quand c'est devenu de la ville, ça a été construit en fait très très vite pour des toutes petites maisons. et avec les pierres, les produits, la terre qui était sortie de la rénovation du centre de Paris et aussi des terrains de SNCF. Donc on a construit très vite avec des matériaux qui n'étaient pas de très bonne qualité. Ce qui fait qu'après ça, vite, il y a eu des gros problèmes de logement à la Goutte d'Or, des immeubles insalubres, beaucoup de gens mal logés dans des immeubles complètement pourris. Et du coup, un changement important, ça a été la rénovation urbaine sur la Goutte d'Or, à partir de 1980 à peu près. Donc tout le quartier sud, vous voyez, il a changé, on a construit des logements sociaux. Le quartier nord, il est encore en train de changer, il y a encore des logements qui sont en train d'être construits. Mais avant, il y a eu d'autres événements dans la Goutte d'Or. Par exemple, pendant la guerre d'Algérie, comme il y avait beaucoup d'Algériens à la Goutte d'Or, la guerre d'Algérie, elle a été vécue très très fort dans le quartier. Il y a eu beaucoup, beaucoup de contrôle des Algériens dans le quartier. Il y a eu d'autres événements qui ont marqué. Par exemple, en 1970, il y a un garçon du quartier qui s'appelle Djilali qui a été tué par un concierge. Et c'était un crime raciste. Et à cette époque-là, il y avait plusieurs crimes racistes en France. Et du coup, il y a des habitants de la Goutte d'Or, mais aussi de tout Paris, des citoyens de partout, des hommes importants, Sartre, Foucault, etc., qui ont créé un comité qui s'appelait Comité Djilali pour protester contre le racisme. Et ça a donné, ça a abouti progressivement à une loi contre les actes qui incitent au racisme. Donc ça, ça a été aussi un moment important. Ce qui a été important, par exemple, c'est aussi l'occupation de l'église Saint-Bernard en 1996 par les sans-papiers. Donc les plus vieux parmi vous, ils s'en souviennent, Ramata, je suis sûre que tu t'en souviens. Et il y a eu une lutte importante déjà en 1970, mais aussi en 1996 avec l'occupation de l'église Saint-Bernard. Et l'église Saint-Bernard a été évacuée par la police, les gendarmes. Ça a été très, très dur dans le quartier.
Que pensez-vous du quartier d'aujourd'hui ?
Alors, c'est un quartier passionnant. Parce que c'est un quartier qui pose des questions à la société française. Comment vivre ensemble quand on vient de pays et de cultures très différentes ? Comment arriver, parce que réussir à vivre, à faire un quartier où les gens s'entendent, en étant très différent, eh ben c'est un beau défi. Il y a aussi comment vivre ensemble entre gens qui sont en situation très difficile. Il y a des personnes dans le quartier, vous le savez, qui sont mal logées, qui n'ont pratiquement pas de ressources, qui ont des grosses difficultés sociales. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus riches, qui sont de classe aisée, pour qui il n'y a aucun problème. Comment faire que ces personnes-là se rencontrent et vivent ensemble ? Donc là, la Goutte d'Or, pour moi, c'est un exemple de ce qu'il faut... Il y a des choses qu'il faut réussir et qui seront valables pour toute la société demain. Comment faire pour que des enfants de la Goutte d'Or réussissent leurs études, alors que souvent, ils viennent d'autres pays que la France, que leurs professeurs, eux, sont français et que tout le programme, il est fait pour des Français. Mais comment faire pour réussir quand même les études ? Comment faire pour que des enfants qui ont des cultures différentes puissent exprimer leur culture à l'école et que ça soit une richesse ? Donc tout ça, je trouve que c'est passionnant dans le quartier aujourd'hui. Et ce qui m'inquiète, c'est quand les gens se referment sur eux-mêmes. Ce qui m'inquiète aussi, peut-être, c'est les relations femmes-hommes dans le quartier. Le fait qu'il y ait des moments où des femmes ou des jeunes filles qui circulent dans le quartier se sentent pas en sécurité parce que les garçons, les hommes, les regardent d'une certaine façon. Donc ça, ça m'inquiète. Je me dis, c'est des choses qu'il faut travailler. Il faut arriver à se rendre respectueux mutuellement. Il faut que tout le monde puisse vivre dans le quartier. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit homme, qu'on soit femme, il faut qu'on arrive à vivre ensemble dans le quartier.
Merci beaucoup, Maman.
Merci à toi. Enfin, merci à vous tous.
On vient d'écouter Christine, la directrice de l'association Accueil Goutte d'Or. Elle nous a expliqué l'histoire du quartier de la Goutte d'Or. Un grand merci à Christine.
Merci Ramata. Tout de suite, un peu de musique. Vous écoutez, bienvenue à la Goutte d'Or sur Radio Campus Paris.
Comme tous les matins avant d'aller sur le chantier, il vient me parler de tous ses problèmes de foyer. Il me dit que ses enfants le rendent complètement fêlé, que sa femme le trompe avec le voisin du palier. Et lui là-bas ne fait que nous rabâcher sa jeunesse, qu'il était beau et riche, qu'il a tiré toutes les gonzesses, que dans son temps les jeunes avaient plus de politesse, mais qu'aujourd'hui pour une cigarette il t'agresse. Au fond de la salle j'entends qu'une bagarre éclate, je cours les séparer avec ma fameuse batte. Je vois que le premier a sous la manche qu'elle cartes. Le deuxième le rate et me fout une patate. Ils m'ont tous saoulé. Ils m'ont tous saoulé. Oui, ils m'ont tous saoulé. Ils m'ont tous saoulé. Comme tous les midis en sortant de son petit bureau, il dessert sa cravate et il me parle de son boulot. Il décrit son patron avec des tas de noms d'oiseaux. Il aimerait bien se taper sa secrétaire Véro. Et là, il y a cette cougar au décolleté ravageur, jupe léopard, maquillage de film d'horreur. Elle me raconte ses sébats sexuels sans pudeur avec ce petit jeune qui est majeur depuis 24 heures. Et là, d'un coup, un homme monte sur la table avec son accent bizarre, il nous traite de macaque. Il nous dit qu'à l'époque, il était formidable. Puis il tombe dans mes bras en pleurant qu'il est formidable. Ils m'ont tous saoulé. Ils m'ont tous saoulé. Oui, ils m'ont tous saoulé. Ils m'ont tous saoulé. Et moi, mes problèmes à moi, qui s'intéresse, intéresse, intéresse, intéresse. Oui, et moi, mes états d'âme et mes tourments. Ici, personne ne veut les entendre, c'est normal, je ne reste que le barman.
C'était le rappeur Soprano avec le morceau Barman dans Bienvenue à la Goutte d'Or. On continue cette émission avec Salim. Bonjour Salim.
Bonjour, je vous présente Jean-Marc, le directeur de l'Écomusée. C'est un lieu qui se trouve dans notre quartier. Il a été créé il y a 20 ans par Jean-Marc. C'est un endroit où on ne peut découvrir les artistes de la Goutte d'Or. C'est un lieu important pour les habitants. On écoute tout de suite Jean-Marc.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi Écomusée ?
Écomusée, c'est d'abord, on entend Écomusée. Et, Écomusée, c'est très connu, il y en a plein partout en France, il y en a vraiment partout. Mais là, cet Écomusée-là s'appelle Éco. E-C-H-O, comme la résonance, tu sais, l'écho dans la montagne. Quand tu lances un cri qui revient, qui fait des allers-retours comme ça contre les parois de la montagne. En fait, c'est plus dans l'esprit du partage, de la résonance, des choses qu'on fait ensemble.
Pourquoi ont-ils choisi de faire dans ce métier ?
Pourquoi j'ai choisi ce métier ? Alors, ouais, là, c'est un peu... En fait, je suis arrivé ici il y a 25 ans, dans cette boutique, et c'était mon atelier. Je travaillais pour la publicité et tout ça. Et donc on a commencé à faire des expos dès 1992. Dans la Goutte d'Or, il y a plein d'artistes en tout genre dans ce quartier. Et personne ne sait que ce quartier-là est aussi un espace de création vraiment très, très, très intense. Et donc, en fait, cet endroit, en fait, on l'a conçu comme un espace ouvert, une sorte de vitrine sur la création dans ce quartier, quoi. Et donc, en fait, ici, j'ai ce quartier qui est assez fascinant. On a l'impression de le connaître, mais il y a toujours des découvertes à faire ici. Et à travers ces initiatives et tout ce qui a été fait comme expérimentation ici au niveau artistique, c'est devenu, ma curiosité est devenue une drogue par rapport à ce quartier de la Goutte d'Or, parce qu'il me fascine complètement. Et je sais que l'image qui est diffusée de ce quartier est assez négative sur l'extérieur, mais vu de l'intérieur, c'est assez génial quand on connaît autant de gens qui ont la capacité de créer, de faire des choses très intéressantes. Et puis tous les groupes, c'est vraiment fabuleux. Moi, j'ai continué à faire Écomusée justement pour essayer de montrer autre chose, une autre image, et de faire un musée avec plutôt l'âme d'un quartier, quoi, ce qui est toute la création, l'âme du quartier.
On voudrait savoir, Écomusée, est-ce qu'il y a différence avec d'autres musées ou bien séparés?
Quand on voit l'accueil des gens de ce quartier et puis l'intérêt qu'ils portent à cet endroit, on se rend compte que c'est un peu différent. Ce n'est pas une galerie d'art classique comme il peut y en avoir dans tout Paris ou dans certains quartiers un peu chics. Parce que ces galeries, les gens n'y rentrent pas spontanément, quoi. Il faut être vraiment amateur d'art et tout ça. Mais ici, comme on travaille dans la simplicité et que la porte est toujours ouverte, n'importe qui peut rentrer. Parce qu'en fait, c'est l'endroit où tous les gens qui ont des initiatives sur un quartier devraient venir montrer et partager avec les gens. Et donc, des fois, on se dit que ça serait bien s'il y en avait dans tous les quartiers. Chaque quartier a une âme. Et en fait, c'est autour de cette histoire. Parce qu'il y a l'histoire du quartier, il y a toutes les histoires de vie. L'idée, c'est d'avoir une maison dans un quartier. C'est pour ça que c'est ouvert comme ça et très convivial. Petite maison de la culture, mais gérée par les habitants et les acteurs du quartier. Voilà en gros l'idée de l'écomusée.
C'est quoi les événements qui se situent dans ce musée?
Il y a plusieurs types d'événements dans ce musée. Il y a les événements qui accompagnent les expositions. Donc ça peut être une projection de film, un concert, un repas. Mais sinon, c'est aussi des gens qui viennent ici pour monter pour faire des résidences. Artistique. C'est surtout les gens qui ont envie de travailler avec la Goutte d'Or, qui sont extérieurs à la Goutte d'Or, qui n'ont pas de lieu ici et qui viennent pour partager avec les habitants une expérience, quoi. Depuis 20 ans, ce sont vraiment des centaines d'événements qui se sont déroulés ici, quoi. Merci à vous.
Merci à vous.
Vous venez d'écouter Jean-Marc, le directeur de l'Écomusée. Le prochain événement à l'Écomusée, ce sera le 2 avril à 19h30 pour une soirée cabaret avec les festivals Magic Barbès. Je laisse maintenant le micro à Bérité. Elle va vous parler de la Secret Connexion.
Bonjour. Je vais vous présenter comment il est père fondateur de la Secret Connexion. Nous l'avons rencontré à l'Écomusée lors d'une exposition pour les 20 ans de ce groupe. Les membres de la Secret sont tous issus de la Goutte d'Or. Il a répondu aux questions de notre équipe pour bien venir à la Goutte d'Or.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Comment vous appelez?
Alors bonjour, je me présente, c'est Ahmed Koma de la Secret Connexion, le groupe de Barbès, jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction.
Vous avez quel âge?
Alors moi j'ai 42 ans, je fais partie des premiers rappeurs du quartier. J'ai commencé en 1994-95 et maintenant ça va faire 20 ans qu'on fait des disques, qu'on fait des concerts partout. Voilà.
Je voulais savoir pourquoi vous avez choisi ce métier.
Au début c'était pas un métier, c'était la passion. Et la passion petit à petit ça devient un métier parce que tu as des responsabilités. Parce que tu as des concerts, tu dois être à l'heure pour prendre le train, tu dois être à l'heure pour les répétitions. Puis la passion, elle devient organisée, elle devient. T'as des gens avec toi qui t'as des rendez-vous et ça devient vraiment un métier.
Est-ce que votre métier, ça vous plaît?
Alors, jusqu'à aujourd'hui, t'as vu, ça continue de nous plaire et ça nous plaît parce qu'on rencontre plein de gens, c'est jamais pareil. Un jour on fait un concert, un jour on est au studio, un jour on fait des répétitions, un jour on est dans notre chambre et on écrit, donc c'est jamais pareil, tu vois. Puis on rencontre des gens de partout, comme vous, qui font des choses. Donc même après les années, ça nous plaît toujours.
Combien de gens sont-ils de cette groupe? Vous êtes de combien?
Alors c'est simple, dans le groupe, on est 4 rappeurs et un DJ. C'est-à-dire on est 5 sur scène. Et il y a plein de gens qui travaillent autour de nous parce qu'on a un site internet, on a un magasin de hip-hop qui est à la rue Marcadet. Parce que quand tu fais un groupe de rap, il n'y a pas que les rappeurs. Il y a tous les gens qui sont autour, les photographes, les caméramans. À la fin, on se retrouve autour de nous, il y a au moins 10-15 personnes qui travaillent avec nous.
Comment vous avez eu l'idée de créer ce groupe?
Au début, on était des rappeurs dans notre quartier, dans les années 1990. Chacun faisait son rap de son côté. Et un jour, on s'est retrouvés, nous les rappeurs, à commencer du quartier à faire les choses ensemble. Moi avec Moclès, avec Mourad, avec Mehdi Lafranchi, Yaro, parce qu'il y avait beaucoup de groupes ici. Chaque année, il y avait des nouveaux groupes. Et à force de se connaître, nous, avec Moclès, Mourad, Haroun, on a créé le groupe Secret Connection.
Pourquoi il s'appelle le Secret?
Le mot Secret, ça veut dire discret. C'est à l'envers. Tu vois, et discret, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on est dans un monde aujourd'hui où tout le monde veut passer à la télé, tout le monde veut passer à la radio, tout le monde veut être une star, tout le monde veut quelque chose. Et nous, on pense qu'on peut faire de l'art, on peut faire de la musique, on peut faire des trucs, mais pas, c'est-à-dire, comme tu vois, passer dans des maisons de disques, dans des radios, et puis qu'on transforme ta musique. Au début, les gens les aiment, mais après ils vont pas aimer parce que on te demande qu'il faut pas faire comme ça. Donc nous, on a préféré être discret parce qu'on dit, nous, on a notre bonhomme, t'as vu, regarde, ça c'est le logo et pour nous, on a pris un bonhomme avec un foulard et qui est discret parce que le message n'a pas de visage.
Vous parlez beaucoup dans vos chansons sur le quartier, on voulait savoir pourquoi.
Nous, on est né dans ce quartier. On a grandi, on a été à l'école dans ce quartier. Nos amis sont de ce quartier, nos familles sont de ce quartier. Et c'est un quartier, la Goutte d'Or, qui est un quartier difficile. C'est-à-dire où il y a eu beaucoup de problèmes pendant des années. Personne n'en parlait. Donc les gens du rap, que ce soit de la Goutte d'Or ou des autres quartiers de France, de banlieue, on a été les gens, on a commencé à raconter les histoires des quartiers. Et c'est ça le rap. Donc nous, c'est tout ça qu'on a écrit. C'est l'histoire de nos parents quand ils sont arrivés. C'est notre histoire à nous quand on était ici. C'est l'histoire de nos petits frères qui sont ici. C'est tout ça qu'on écrit. Parce que la télévision, elle donne la version de la télé. Et nous, on donne notre version de dedans. Eux, ils ont la version de extérieur, et nous, on donne la version de l'intérieur. Après, à toi de choisir qui t'as envie de croire. T'as envie de croire eux qui te racontent de dehors, ou nous qu'on te raconte de dedans. On fait de la contre-information.
Qu'est-ce qui est difficile dans ce métier?
C'est comme en amour, c'est dur de durer. Pour ça, faut pas trahir le public, faut toujours rester sincère, faut garder vraiment ta direction. C'est pour ça que nous, on a la phrase « jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction ». Nous, c'est notre phrase qui nous permet de rester toujours dans la même idée du début, de ne pas perdre avec le temps la philosophie du groupe. Quoi que tu fasses de la radio, tu travailles dans la vie, que tu fasses de la musique, il faut garder toujours tes idées, te battre pour tes idées.
J'aimerais savoir, dans votre groupe, est-ce qu'il y a tous les types de nationalités?
Ouais. Chez nous, il y a de tout nationalité. On ne regarde pas la nationalité des gens dans Secret Connection. On travaille avec tout le monde qui a un bon esprit, tu vois. Qui que ce soit. ni on s'en fout de la religion, on s'en fout de la nationalité. C'est l'esprit qui compte, que tu as envie de bouger dans ta vie, que tu as envie de faire des choses, que tu as envie d'aider les jeunes, que tu respectes tes parents. Nous, c'est du moment que tu rentres dans cette... Tu es comme ça, tu es avec nous. Il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Chinois, il y a des Réunionnais, il y a des Indiens. Toutes les religions qui existent, la secrète connexion, on est international. Nous, on veut représenter notre quartier, montrer les bons côtés de la Goutte d'Or, les bons côtés de Barbès. Et c'est pour ça que nous, les artistes, on est là, on veut montrer le meilleur côté et que donner l'envie à d'autres gens de continuer ce travail. Vous, la jeunesse, c'est vous la relève, vous allez repartir chacun dans vos quartiers et chacun, il peut faire quelque chose. On ne peut pas changer le monde, mais on peut changer un peu devant chez nous.
Est-ce que vous êtes connu ici en France ou bien au niveau international ?
On est le groupe le plus connu des inconnus. Tout le monde connaît Secret Connexion dans le rap, et par rapport à ça, on est connu. Et je veux dire, nous, le but, c'est pas d'être connu ou pas connu, ou tu vois, ça fait 20 ans qu'on est là. Le but, c'est d'aimer ce que tu fais, que ça continue de te plaire, que tous les jours tu fais des super rencontres, et que grâce à ça, eh ben, t'arrives peut-être pas à être connu, mais t'arrives à être reconnu par les gens pour qui tu chantes, en tout cas. Déjà, ça, je pense que les gens qui montent avec nous dans le train, ils redescendent pas. Quand tu montes dans le train de la Scred, c'est pour longtemps.
On vous remercie beaucoup, merci beaucoup et passe une bonne après-midi.
Merci à vous et je vous souhaite plein d'interviews et de continuer comme ça. C'était Secret Connexion, Barbès, jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. C'était Koma, aïe.
Merci Koma d'avoir discuté avec nous. Tu penses quand tu veux nous voir à la Quai Goutte d'Or.
Merci Bérité, c'est le moment de la musique. Dans bienvenue à la Goutte d'Or. On retrouve la Secret Connexion avec Partie de Rien.
Partie de rien, on arrive à ce qu'on vise. Et vu qu'on apprend rien, qui nous aide, c'est souvent rien ce qu'on vise. Ils disent souvent qu'on est des bons à rien. Et il suffit d'un rien pour qu'on y croit. Quoi que t'en dises, on va pas perdre notre temps moisi ici. Quoi que t'en dises, partie de rien, on va trouver la sortie. Quoi que t'en dises, c'est pour tous ceux qui ont pour nous du mépris. Quoi que t'en dises, qu'on lève notre verre avant qu'on se casse d'ici. Hey. Quoi que t'en dises, ça fait un bout de temps qu'on est parti. Ça fait un bout de temps, pas depuis tout le temps. Le temps c'est cool, temps. On aura du mal à faire ça coolement. Je te parle gentiment, j'attends patiemment. Mais j'ai pas toute la vie. J'attendrai pas que les pigeons me chient dessus. Et même si je suis dessous, j'attendrai pas après le plan glissu. Pour dire qu'ici on est souvent déçu par la réussite qui pour l'instant nous a mal reçu. Parti de rien, on arrive à ce qu'on vise. On fait notre taf dans ce bise, poseur de bombes sur ce que. On sert des leçons acquises, crache sur le FN et sa convoitise. Paralyse les faux, c'est pas ces cons que nos sons attisent. Parti de rien, on arrive à ce qu'on vise. Et vu qu'on apprend rien, qui nous aide, c'est souvent rien ce qu'on vise. Ils disent souvent qu'on est des bons à rien. Et il suffit d'un rien pour qu'on y croit, quoi que t'en dises. On persiste et on lâche pas prise. Quoi que t'en dises. Les 4 saisons même en période de crise. Quoi que t'en dises. Pour l'an 2000 on compte doubler la mise. Quoi que t'en dises. On aime poser sans raconter de bêtises. Hey. Quoi que t'en dises. Le rap on s'y attache, souvent on s'y fâche. Mâche pas les mots pour faciliter la tâche. Quoi que t'en dises. On continue sans flamber. On met les choses en place. SIFOIR il reste le plan B. J'pars par hasard à part. Aux grandes occasions, genre Mercury demande à Caro. On part de rien et on est sous contrat. On veut bien être correct mais faut pas que les DAS la contrat. C'est contre ceux qui nous ralentissent, qu'on lance une offensive. Paraît que nos récits sont corrosifs, nocifs. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, hein? De toute manière, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parti de rien, on arrive à ce qu'on vise. Et vu qu'on apprend rien, qui nous aide, c'est souvent rien ce qu'on vise. Ils disent souvent qu'on est des bons à rien. Et il suffit d'un rien pour qu'on y croit, quoi que t'en dises.
Ouais, la vie pour nous c'est pas peinard. Y'a peu de vernis et peu de peinard. Un peu partout c'est le même scénar. Y'a que des histoires qui nous ont quémas. Ouais. Parti de rien, ça fait pas de moi le chien, le toutou. La rue j'en reviens, j'aimerais lui faire un dernier coucou. La vie est courte, dangereuse et loin d'être parfaite. Ce quotidien me lasse, mais faut minimum 20 barres par tête. A chaque jour sa peine, à chacun son degré de patience. Rien dans les poches poches, ça veut pas dire que ma vie n'a pas de sens. Décadence, mon malheur, est-il le fruit du hasard? Dans le noir on avance, j'aimerais y voir plus clair dans ce bazar. On se bagarre et on se tape, on se tire dans les pattes et pourtant on pourrait s'entraider un peu partout, c'est pareil tout le temps. Et tout en faisant mon taf, je mets des baffes aux clichés pesants. Les belles paroles, on n'y croit pas, tu nous la feras pas car on n'a pas 2 ans. C'est des valises plutôt légères, des paroles vénères. Vu que le rap donne envie de bégère. Et de toute manière, on ne recherche pas le luxe et l'extase. L'important pour nous, esquiver la condition d'esclave. De Barbès on vient, avec l'intention de faire notre trou. L'impression qu'avec rien, si on veut, on arrive à tout. On se crête, à 999 plus 1. Coma, Buffa, Oclès, Haroun. Ouais, Besbar.
C'était le groupe de la Goutte d'Or, Secret Connexion, avec Partie de Rien. On part maintenant à l'Institut de Culture de l'Islam. C'est avec Viorica. Bonjour.
Bonjour. Nous avons visité l'exposition Amman de la Médecine de Tunis. Voici notre rencontre avec Bérénice Saliou, la directrice culturelle de l'Institut.
On voudrait savoir depuis quand l'Institut ça existe, depuis quand, et pourquoi vous avez choisi d'être ici au quartier Goutte d'Or.
Donc l'Institut, il existe depuis 2006. Donc pourquoi on est à la Goutte d'Or ? Parce que la Goutte d'Or, c'est un quartier multiculturel. On retrouve des personnes qui viennent du monde entier et on retrouve des personnes avec de multiples religions. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui pratiquent l'islam. Et c'était important pour nous de venir montrer la diversité, la richesse de toutes les cultures qui sont en lien avec l'islam. Donc l'islam, c'est pas uniquement le Maghreb, ça va être aussi l'Indonésie, les pays du Golfe, mais aussi par exemple l'Afrique subsaharienne, le Mali, le Sénégal, etc. Et puis tout le Moyen-Orient, donc c'est très très vaste.
Vous pouvez nous présenter l'Institut ?
Donc l'Institut des cultures d'islam, c'est donc un établissement culturel de la ville de Paris qui a pour vocation de mettre à l'honneur toutes les cultures, la création contemporaine dans les pays où l'islam est présent. On le fait par l'intermédiaire d'expositions et autour de ces expositions, on vient tisser toute une programmation pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on fait des concerts, on accueille des spectacles de danse, de théâtre, ou alors en fait des tables rondes où on donne la parole à des créateurs contemporains, etc. C'est très très vaste. On a aussi tout un travail de médiation et d'action culturelle. Donc on organise des ateliers qui sont souvent gratuits à destination des gens du quartier ou de Paris ou même d'ailleurs. Et j'oubliais aussi un pan très important de notre activité, c'est qu'on est un institut pédagogique. Donc on a toute une offre de cours d'arabe, cours de wolof, cours de calligraphie, cours de kabyle, voilà, qui sont donc à destination du public pour apprendre ces pratiques ou ces langues. Et puis la spécificité de l'Institut des cultures d'islam, c'est que dans le bâtiment rue Stephenson, il y a aussi une salle de prière, mais elle n'est pas gérée par nous. Nous sommes une association loi 1901, et la salle de prière, elle est gérée directement par la Grande Mosquée de Paris. Et puis enfin, il y a aussi un hammam, voilà, un très très beau hammam au sous-sol, pour venir pratiquer les soins du corps.
Pourquoi le nom c'est comme ça, Institut de Culture d'Islam ?
Il y a eu effectivement une interrogation. Au début, on imaginait l'intituler Institut des Cultures Musulmanes, mais finalement, Institut des Cultures d'Islam, c'est plus large. Et puis c'est aussi un joli jeu de mots, parce que quand on fait c'est ICI, ICI. Institut des cultures d'islam. Voilà, donc c'est ici, parce que c'est effectivement extrêmement important aujourd'hui de venir montrer l'islam sous un jour autre que celui, par exemple, qui va être véhiculé dans les médias, où il y a une espèce de peur ou d'inquiétude qui vient en fait autour de cette question de religion, mais de montrer effectivement l'islam sous un autre jour, sous un jour positif, sous un jour d'ouverture, et de montrer que dans ces pays, la création contemporaine est vitale et foisonnante, est aussi importante et aussi intéressante qu'elle peut l'être en Europe. Et on n'aborde pas effectivement la création contemporaine sous le biais de la religion. On n'est pas un centre des cultures islamiques ou de l'art islamique, pas du tout. On vient aussi, en fait, on vient parler de l'islam. Et on invite des artistes qui parfois d'ailleurs critiquent ou s'interrogent ou ont beaucoup de questions par rapport à l'islam, dans une idée aussi de laboratoire, et on vient créer quelque chose de nouveau.
Pourquoi vous avez choisi cette expo pour le hammam ?
Cette exposition qui s'intitule Regard posé, Hammam de la Médina de Tunis, elle nous a été proposée par une association tunisienne qui s'appelle le Medina Wer Rabtin, ce qui signifie action citoyenne en Médina. Et l'idée, c'était vraiment de permettre une visibilité sur ce patrimoine qui tend à disparaître. Ils ont fait un appel à candidature, ils ont récolté de très nombreuses candidatures, plus d'une centaine, et ils ont choisi 19 photographes et les ont invités à venir donc à Tunis pour photographier les hammams. Chaque photographe a choisi un hammam et a pris des photos de ce hammam. Voilà, donc on a des photographies, puisque les photographes sont différents et ils n'ont pas tous la même manière de voir et la même sensibilité. On a des photographies très différentes, certaines photographies qui s'attachent plus à montrer des détails à l'intérieur des hammams, d'autres des vues plus larges, vraiment d'ordre architectural. C'est très différent, il y a vraiment des sensibilités très différentes. Quand on pense à hammam, par extension peut-être penser harem, penser au orientaliste, etc. Il y a beaucoup de fantasmes qui sont effectivement autour de cette idée du hammam. Mais la façon dont cette question est traitée au sein de l'exposition et par les photographes eux-mêmes est totalement éloignée de ces clichés orientalistes. Les photographies, pour certaines, sont extrêmement frontales. Il y a vraiment des détails qui montrent des difficultés sociales aussi très grandes de ces personnes qui sont là, qui travaillent dans les hammams ou qui les fréquentent. Tout ça fait qu'on est très très loin de la carte postale et du fantasme orientaliste.
Enfin, merci beaucoup de votre bon accueil et
on vous remercie beaucoup.
Merci madame, merci beaucoup.
C'était Bérénice Saliou, directrice de l'Institut de Culture d'Islam dans Bienvenue à la Goutte d'Or. Place maintenant à Fatou qui va vous parler du Ronali et de sa passion pour la danse.
Bonjour, je vous présente Ronali, elle vient du Bangladesh. Et on l'a rencontrée à l'association Accueil Goutte d'Or. Elle vient y prendre des cours de français. Ronali fait de la danse. Elle pratique le Bharatanatyam, une danse du Sri Lanka. C'est un pays situé sur une île au sud de l'Inde.
Ta, di, ta, ka, ta, di, ta, jam. Ta, di, ta, ka, ta, di, ta, jam, da, na, ta, ta.
J'ai commencé la danse quand j'ai 11 ou 12 ans.
Ta, jam, ja, nu, ta.
J'ai pris les cours de danse avec une professeure, elle s'appelle Momita, les cours de danse nom Bharatanatyam. J'ai aussi ma passion et j'ai aussi mon travail.
C'est les deux.
Oui, c'est les deux. L'origine des danses Bharatanatyam, c'est dans le pays du Sri Lanka. Après, il y a beaucoup de pays qui dansent Bharatanatyam. Je porte une sari, c'est une blouse avec une pyjama, avec beaucoup de bijoux, beaucoup de fleurs dans les cheveux.
Et quoi comme bijoux?
Bijoux, c'est dans la tête, dans la main, dans la pied, c'est beaucoup avec la bracelet, avec la boucle d'oreille, avec nez bijoux. Les piercings avec c'est ça, un bijou dans la tête, il s'appelle tikli. C'est beaucoup de sentiments quand j'ai dansé. Triste, j'ai content, c'est beaucoup de la danse, c'est avec beaucoup de sentiments. La danse dépend sur la musique.
Ça dépend de la musique.
Oui, ça dépend de la musique parce que la musique c'est content. Je suis content, je suis triste, je suis triste.
Est-ce que vous dansez toujours dans un temple?
Non, je n'ai pas dansé toujours dans la temple. Il y a fête,
Je danse en temple. Il n'y a pas de fête, je danse à la maison, autre chose. Dans mon pays, Sri Lanka, il y a un god, Dieu, il s'appelle Shiva. Quand il est pêché, il danse, beaucoup danse avec beaucoup d'énergie. C'est caractéristique de danse Bharatanatyam. Tu danses avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de feu. Il y a beaucoup de sentiments comme timide, triste, content. Il y a aussi des sentiments de pêché. C'est aussi un sentiment avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de fêche, tu danses. C'est la caractéristique du danse Bharatanatyam.
Vous venez d'écouter l'interview de Ronali et justement la voici au micro. Bonjour Ronali, merci pour cette découverte et toi tu vas nous parler de nourriture.
Oui, bonjour. Je vais vous parler d'une personne de notre équipe radio. Il s'agit de Viorica. Elle vient de Moldavie. Elle adore la cuisine. Elle sait préparer un plat traditionnel de Moldave. C'est la soupe de poulet. Elle fait aussi plein de desserts. C'est une très bonne cuisinière et elle nous raconte comment préparer la soupe de poulet.
Bonjour, je m'appelle Viorica Verlan. J'ai 22 ans. Je suis d'origine moldave. C'est ma mère qui m'a appris. J'aime beaucoup. Il me donne plaisir quand je cuisine. Quand je suis énervée aussi, je cuisine. Il me calme.
Quel plat vas-tu nous présenter?
Oui, aujourd'hui, je vais vous présenter ziama de poi, tăiței de casă. Ça, c'est soupe de poulet.
Quels sont les ingrédients?
Pour préparer le soupe de poulet, nous avons besoin de viande de poulet, oignon, carotte, poivron, rouge et vert, pommes de terre, sel, condiment pour poulet. C'est un ingrédient moldave, il s'appelle borș acru. C'est liquide, il a un goût, il a une couleur jaune.
Où est-ce qu'on trouve cet ingrédient?
Il se fait à la maison. Ma mère, il m'a envoyé de Moldavie ici.
Alors du coup, avec quoi on le fabrique?
Se face din tărâță, amestecată cu apă, cu frunze de vișnă.
D'accord. Da. Okay. Donc il y a de l'eau et tout ça, c'est ça? D'accord.
Il faut bien laver le poulet, coupé, et le mettre en boulie dans l'eau froide avec une pince de sel, découvert dans un casserole sur le feu moyen. Pendant ce temps, faire bouillir la chair et préparer le tăiței. Pour tăiței, nous avons besoin d'un œuf et de la farine. Mélangez l'œuf et la farine jusqu'à ce que cette pâte devienne dure et laissez reposer pendant du vent 3 minutes. Lorsque la viande est moyen cuite, ajoutez le pomme de terre et des légumes. Coupez en petits cubes et laissez bouillir. Lorsque la viande et le pomme de terre sont bien cuites, ajoutez tăiței. Oui, et borșul acru. Après que nous avons mis le tăiței, on va laisser la soupe pendant 2 minutes et après, hors le feu, et mettre la verdure, persil. Nous pouvons servir avec une cuillère de crème fraîche ou de piment. Voilà.
D'accord. C'est long? C'est combien de temps pour le faire?
Une heure trente.
C'est quoi ton plat préféré?
J'aime beaucoup soupe de poulet.
C'était Viorica dans Bienvenue à la Goutte d'Or. N'hésitez pas à venir à Kyo Goutte d'Or et manger la soupe de poulet. Et bonne fête de couleur. Happy Holi!
Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Bienvenue à la Goutte d'Or. Merci beaucoup à toutes ceux qui l'ont écouté. Merci aussi à l'accueil Goutte d'Or. Et un grand merci à mes collègues, Gilles qui a réalisé cette émission, Ramata, Salim, Sarah, Fatoumata, Ronali, Berete, Viorica, Antusta et les autres. Merci aussi à François, Laetitia et Martin. C'était Marietou au micro. À bientôt sur Radio Campus Paris.